Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfillon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
L'actualité de ce samedi, c'est d'abord Willy Bardon, toujours dans un état grave ce matin après avoir été condamné hier soir à 30 ans de prison.
L'homme a été reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et de la séquestration d'Élodie Kulik. Ce drame, il y a 17 ans, avait choqué la France entière. La banquière de 23 ans avait enduré un véritable calvaire avant d'être tuée et brûlée. L'un des deux suspects est mort avant que les tests ADN ne parlent. Quant à Willy Bardon, seul dans le box donc, qui a juré au père de la victime qu'il n'avait pas participé à cette horreur, eh bien, il n'a pas supporté l'annonce du verdict hier soir. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour.
Vous avez assisté à l'audience pour RTL. Franck, personne n'a rien pu faire.
Oui, en effet, à l'énoncé du verdict, une partie de la salle d'audience a laissé échapper comme un soulagement. Jackie Kulik en larmes étreint son fils, le frère d'Élodie. Willy Bardon, lui, est resté prostré, seul dans son box. Il a saisi un produit qu'il a avalé avec une grande gorgée d'eau. Les policiers qui l'accompagnaient l'ont tout de suite pris en charge, transporté à l'extérieur dans une ambulance. L'accusé était conscient, mais son état s'est vite dégradé. Il n'a pas voulu dire ce qu'il avait pris. Selon des proches, à qui il avait fait part de son intention d'en finir s'il n'était pas acquitté, il pourrait s'agir de mort au rat. Ses avocats, Maître Daco et Duménil, qui étaient juste devant, n'ont rien vu. Eux qui n'ont eu de cesse de dénoncer un dossier vide.
On n'a pas d'explication. Je pense que la volonté qui est la sienne, c'est de ne pas supporter la prison. Nous, on est à ses côtés depuis le début et on voit bien que depuis le début, il est écrasé. Voilà.
Dans ce dossier-là, condamné pour le viol et acquitté pour le meurtre, ça n'a pas de sens. Ce qui est certain, c'est que la passion, les souffrances qui sont légitimes ont pris le pas sur la raison et sur le droit. C'est la raison pour laquelle nous allons évidemment interjeter appel. C'est la raison pour laquelle nous allons nous battre devant une autre juridiction qui ne sera pas polluée par un certain nombre d'éléments et d'une douleur légitime des parties civiles.
Malgré l'absence de preuves scientifiques, pas d'ADN, la voix de Bardon, qui a été reconnue par 6 de ses connaissances sur l'appel au secours de la jeune banquière, a donc convaincu les jurés amiénois. 26 secondes de mauvaise qualité, mais glaçantes. Pour la famille d'Élodie Kulik, c'est en tout cas la fin de 18 ans de traque. Son père, Jackie, devrait se rendre sur sa tombe aujourd'hui. Il avait promis d'aller au bout de ce combat.
Franck Hanson, le correspondant de RTL. Merci Franck.
Le trafic encore fortement perturbé ce week-end en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. On va tout vous dire dans un instant. Mais il y a une autre raison pour laquelle vous risquez de rouler au pas. Hein.
Les patrons routiers tentent de se faire entendre. Une hausse de 2 centimes sur leur taxe concernant le gasoil à partir de l'année prochaine, il n'en est pas question. C'est bien pour cela qu'une quinzaine de barrages filtrants sont en train d'être installés un peu partout en France. Et c'est le cas au nord de Toulouse, où vous vous trouvez pour RTL, Patrick Hisson.
Oui, tout près du péage de l'autoroute A62, où tous les camions qui veulent pénétrer dans Toulouse sont bloqués par les manifestants. Les voitures peuvent de leur côté circuler librement. Les transporteurs sont très remontés, comme Claude Sklenich. Il dirige une entreprise qui a 100 véhicules. Pour lui, le coût de l'augmentation de 2 centimes des taxes pourrait avoir des conséquences dramatiques.
Moi, la fin de l'année, si cette taxe passe, je vais vraiment être en difficulté. Ben, chaque année, si vous discutez avec les transporteurs qui sont tous ici, hein, on a tous des bilans qui sont à peine à l'équilibre et la moindre augmentation de taxes va nous mettre en danger. Mec. Voilà, c'est le gouvernement, tout ça, ils le savent. Quoi. Les bilans sont affichés, ils peuvent clairement le regarder. Il suffit de prendre une machine à calculer et on va vite se rendre compte que ça va nous mettre en danger.
C'est la pérennité de mon entreprise qui est en jeu, assure ce transporteur. Blocage au nord, un autre point de blocage pour les camions et seulement les camions, je le rappelle, est en place au sud de Toulouse, à l'entrée de la ville, sur la 61. Et l'opération se poursuivra jusqu'à 17h cet après-midi.
Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Pendant ce temps-là, eh bien, la France est au ralenti. Une nouvelle journée de grève nationale est prévue mardi, alors que le Premier ministre, lui, promet de définir clairement les contours de la réforme des retraites le lendemain, mercredi. Une main de fer dans un gant de velours, c'est un peu la partition que tente de jouer Édouard Philippe en disant d'un côté que tout se fera de manière très progressive, mais qu'il est hors de question de revenir sur la suppression des régimes spéciaux. Ce week-end, trafic encore très perturbé en Île-de-France, que ce soit à la SNCF ou à la RATP. Aujourd'hui, par exemple, 5 TGV sur 6 sont annulés. 85% des Transiliens également. Et certaines lignes de métro ne fonctionnent absolument pas. Thomas Dulin, vous êtes gare du Nord pour RTL. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ambiance fantomatique, Thomas.
Et oui, hein, vous l'avez dit, le métro totalement fermé ce matin, à part à peine quelques RER. Et du côté des trains, les tableaux d'affichage sont bien vides. Une situation inédite pour Christine, une voyageuse.
n'ai jamais vu zéro train pendant deux jours d'affilée comme ça. Mais jamais, 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 jamais. J'ai toujours réussi à rentrer chez moi, toujours. Et l'état de la gare, je n'ai jamais vu de ma vie. Ben, c'est-à-dire vide. Vous avez vu les tableaux d'affichage des trains, il y en a trois fois rien. Les voyageurs, il y en a quasiment pas. Voilà.
Pour trouver du monde et des moyens de transport, il faut sortir de la gare. L'arrêt de bus est bondé. Céline va essayer de monter dans le prochain.
On va pas faire la sauvage, mais bon, on va voir si on peut rentrer quand même.
Là, vous allez essayer de monter dans quel bus ?
Le 39 pour Montparnasse. Je descends tout Paris, donc j'espère pouvoir monter dedans.
Vous n'avez pas d'autre possibilité que les transports en commun ?
Ah bah si, j'ai mes pieds, j'ai les Vélib, j'ai les trottinettes. Moi, j'habite à Paris, alors je dirais que je suis moins en galère que ceux qui sont en banlieue.
Se déplacer dans Paris devrait être un peu plus facile à partir de 13h avec l'ouverture de 5 lignes en plus de la 1 et de la 14.
Le reportage de Thomas Dulin en direct de la Gare du Nord à Paris pour RTL. Merci Thomas. Et concernant le trafic, retrouvez toutes les conditions en temps réel sur notre site rtl.fr.
Restez bien avec nous dans un instant. Il faut sauver le soldat Bayrou, mis en examen hier soir, et Emmanuel Macron ne le lâche pas. A tout de suite.
RTL matin 9h08, la suite du journal Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Et parmi les titres de l'actualité de ce matin, il y a la mise en examen de François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics.
13h, le président du Modem a été interrogé pendant 13h, car les magistrats cherchent à savoir si des assistants parlementaires du parti travaillaient bien auprès des députés européens, tâches pour lesquelles ils étaient rémunérés. En tout cas, cette mise en examen ne change rien aux relations avec l'Élysée, avec Emmanuel Macron. Au contraire, le président de la République appelle à rester soudé derrière François Bayrou, Pauline de Saint-Rémy.
Oui, et histoire que personne n'en doute, Emmanuel Macron a même appelé le gouvernement à être tout entier derrière le patron du Modem et ses proches en ces jours difficiles pour eux. C'était en Conseil des ministres cette semaine. Et il faut dire que le maire de Pau a aussi dû faire face la semaine dernière à la mort accidentelle au Mali de 7 soldats venus de sa ville. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle Emmanuel Macron a choisi d'organiser à Pau le 17 décembre prochain un sommet international sur la situation au Sahel. Mais preuve que ce choix n'est pas que géopolitique, le président passera deux jours entiers dans le fief de François Bayrou. Il faut dire qu'entre le centriste et Emmanuel Macron, c'est l'histoire d'une relation quasi filiale. Le chef de l'État n'oublie pas qu'il lui doit en partie son élection à la présidence de la République. Quant à l'éphémère ministre de la Justice du début de quinquennat, il désapprouve parfois violemment certaines décisions du chef de l'État, mais finit le plus souvent par tout lui pardonner.
Pauline de Saint-Rémy du service politique de RTL. À Marseille, qui pour succéder à Jean-Claude Gaudin aux prochaines municipales en mars? La République En Marche mise sur Yvon Berland, le professeur de médecine de 68 ans, devrait être officiellement investi lors du bureau exécutif après-demain.
Une nouvelle fusillade aux États-Unis, mais cette fois sur une base navale.
Cela s'est passé en Floride. L'assaillant avait posté plusieurs messages anti-américains juste avant de passer à l'acte. En revanche, Philippe Corbet, on ne sait toujours pas s'il s'agit, oui ou non, d'une attaque terroriste.
Oui, c'est ce qu'essaye de déterminer le FBI, car le tireur était un militaire saoudien en formation dans cette grande base aéronavale de Floride. Avant d'être abattu, il a tué au pistolet 3 personnes et en a blessé 8. 6 autres Saoudiens sont interrogés, 3 d'entre eux ont été vus filmer la scène. Il est interdit de porter des armes dans cette base, mais le tireur a pu cacher un Glock et avec ses réserves de balles, il aurait pu tuer beaucoup plus d'officiers américains et d'autres pays alliés, car il y a aussi des militaires français, italiens dans cette enceinte. Le roi d'Arabie Saoudite a appelé le président Trump. Les Américains se souviennent que ce sont en majorité des Saoudiens qui ont mené les attentats du 11 septembre. Et même si ce n'est pas un attentat, cette fusillade va compliquer encore un peu plus les relations entre les deux pays. Démocrates et républicains au Congrès font pression pour que Donald Trump durcisse sa position vis-à-vis de Riyad depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi. Mais le président continue à soutenir le royaume et particulièrement le prince héritier, notamment pour maintenir un prix du pétrole faible.
Le récit de Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis.
Agnès, le foot est la 17e journée de Ligue 1.
Les Dogues Lillois retrouvent la Niaque et montent sur le podium, en tout cas provisoirement. Ils ont dominé Brest 1-0. Rebond de l'OL également avec une victoire qui tombe à pic avant un match en Ligue des Champions mardi. Les Lyonnais ont terrassé Nîmes 4-0, sachant que les Crocodiles se sont retrouvés à 9 dès la première mi-temps. À suivre aujourd'hui Montpellier-PSG, ce sera à 17h30. Puis à partir de 20h, Monaco-Amiens, Nice-Metz, Strasbourg-Toulouse, Toulouse et Rennes, Angers. Des rencontres à suivre évidemment en direct dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h30.
Et puis une question, quel spot sera choisi pour le surf aux Jeux Olympiques de Paris 2024?
Sur la Seine, c'est compliqué, on est d'accord. Donc plusieurs villes sont candidates, sur la côte atlantique, Biarritz, Lacanau, même La Torche en Bretagne. Mais un sérieux concurrent semble tenir la corde. Il s'agit de Tahiti. Alors oui, c'est à 15 000 km de la métropole, mais les points positifs sont nombreux, Isabelle Langer, côté sportif, politique, mais aussi écologique.
Pour convaincre le Comité international olympique, Paris 2024 a réalisé une étude très poussée sur l'empreinte carbone. Paradoxalement, organiser le surf à Tahiti est bien moins polluant que si la compétition avait lieu en France. Les concurrents s'entraînent dans cette région-là du monde à cette période de l'année et peu de spectateurs, seulement 2 à 3 000 sont attendus sur place, alors que sur la côte basque, il serait au bas mot 30 000. Il y a aussi une volonté politique du gouvernement de faire participer la Polynésie française et Canel Bullard, ancienne championne du monde de surf, d'approuver.
C'est loin de Paris, mais ça reste la France. Ça reste un endroit rêvé pour le surf. Donc, pour nos communautés de surfeurs, et ben, là, ce serait vraiment une destination rêvée pour faire les JO. Puis le spectacle sera merveilleux, quoi.
Parce qu'à Tahiti, les conditions seraient idylliques, au-delà de la carte postale de cette île paradisiaque. Et sur ce critère purement sportif, il n'y a pas photo par rapport à la côte basque, selon Canel Bullard.
Pour moi, au mois d'août, déjà, c'est plein été. Des fois, c'est le lac. Pour avoir un bon créneau dans les Landes, enfin, en France, c'est hyper compliqué. Les vagues, enfin, ça va pas être les plus belles vagues pour des Jeux Olympiques. Pour moi, c'est risqué.
Et pas question justement de prendre le risque de devoir annuler des épreuves pour Paris 2024. C'est un argument qui sonne particulièrement aux oreilles du CIO, qui reste maître de la décision finale.
Les informations d'Isabelle Langer du service des sports de RTL. La décision sera prise dans un an maximum, en décembre 2020. Autant vous dire que si c'est à Tahiti, il y aura pas mal de candidatures au sein de la rédaction.
Vous faites du surf, vous, hein?
Ah bah oui, ah, je ne fais que ça.
Bien, évidemment.
Ouais, vous avez vu mon physique?
Agnès Bonfillon, RTL.fr, toute l'actualité. Les courses et Vincennes aujourd'hui, je vous communique les pronostics de Dominique Cordier pour vous aider. Le 13, le 9, le 5, le 3, le 4, le 6, le 12 et le 2. 13, 9, 5, 3, 4, 6, 12 et 2. Et la dernière minute, en vous souhaitant bonne chance de Dominique, c'est le 5 canular.
Et vous pourrez suivre en direct la course du Quintet sur 6play.fr.